Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
Hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au programme de ce dimanche 1er mai. Avec vous, Jean-Noël Ducasse, et au cours de cette émission, le journal, les sports et les interviews. Il est 13h, c'est l'heure du journal. Et tout d'abord, les grands titres de ce dimanche 1er mai. La Nouvelle-Galles du Sud et le Victoria ont enregistré 12 autres décès combinés liés au Covid-19 et près de 17 000 nouveaux cas de virus. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky déclare que 23 000 soldats russes ont été tués en Ukraine. Les élections fédérales en Australie et les travaillistes lancent leur campagne officielle ce dimanche à Perth. La Nouvelle-Galles du Sud et le Victoria ont enregistré au total 12 autres décès liés au Covid-19 et près de 17 000 nouveaux cas de virus ce dimanche. La Nouvelle-Galles du Sud a signalé plus de 9 000 infections ainsi que 5 décès, alors qu'il y a eu 7 654 nouveaux cas dans le Victoria et 7 décès ce dimanche. Il y a actuellement plus de 300 000 cas actifs à travers le pays. Près de 3 200 patients sont hospitalisés, dont environ 145 en soins intensifs. Les élections fédérales en Australie, le Premier ministre Scott Morrison et le leader travailliste Anthony Albanese participeront à un autre débat le week-end prochain sur la Nine Network. Ils ont déjà participé à un débat sur Sky News. Anthony Albanese a été nommé vainqueur ce soir-là avec 40% des téléspectateurs qui le soutenaient. Scott Morrison, quant à lui, parle d'un choix clair.
This election is a choice. It's a choice between a government that you know. A government that has taken action to get Australia through one of the most difficult times this country has seen in generations and has a clear plan for the economy.
Le chef de l'opposition fédérale est en Australie-Occidentale et a annoncé hier le projet de fabrication de 135 bus électriques avec la promesse d'un financement de 125 millions de dollars qui a été dévoilé. Le lancement officiel de la campagne des travaillistes, c'est en ce moment même, ce dimanche 1er mai. Anthony Albanese a déclaré que l'approche de son parti consiste à renforcer toute fabrication, toute manufacture en Australie.
A core part of my pitch to the Australian people is making more things here. One of the lessons of the pandemic is we have to stand on our own two feet. We're vulnerable if we're at the end of supply chains.
Les agences de renseignement en Australie surveillent de près une éventuelle ingérence chinoise dans les élections fédérales. La ministre de l'Intérieur, Karen Andrews, a déclaré la semaine dernière que l'accord de sécurité de Pékin avec les îles Salomon était significatif et que Pékin était, je cite, clairement conscient que l'Australie était au milieu d'une campagne des élections fédérales. Les travaillistes ont critiqué la ministre avec le porte-parole du Labour, Jim Chalmers, affirmant que les commentaire de Karen Andrews était, je cite, remarquablement désespéré et remarquablement déséquilibré. Ce dimanche, le ministre des Finances, Simon Birmingham, a déclaré sur Sky News que les commentaires étaient légitimes.
We've known that foreign interference is a real risk in the Australian electoral landscape and in Australian politics generally. It's why we, as a government, put in place foreign interference laws as part of a range of different protections that we've applied to Australia in response to the more aggressive and assertive stance of China and indeed other risks over recent years.
Le chef des Verts, Adam Bent, a déclaré que son parti donnerait ses votes préférentiels au Labour. Il a appelé les électeurs à penser à privilégier les candidats travaillistes et indépendants engagés dans la politique sur le changement climatique.
This election, the Greens will be preferencing Labour above the coalition because we need to kick the Liberals out. People can safely vote for the Greens, knowing that they'll be helping to change the government. Of course, people can decide their own preferences. It's not up to the parties to determine them. They can only recommend them. But if people vote according to the Greens' How to Vote card, their preferences will go to Labour above the Liberals.
La guerre en Ukraine et le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré que la Russie avait perdu plus de 23 000 soldats dans ce qu'il a décrit comme une, je cite, « guerre insensée ».
The occupiers are gathering additional forces for new attacks against our military in the east of the country. They brought reinforcements to the Kharkiv region, trying to increase pressure in the Donbas. They have lost more than 23,000 soldiers in the battles of this senseless war for Russia. But they do not stop.
Volodymyr Zelensky a aussi déclaré que l'Ukraine avait détruit plus d'un millier de chars russes, près de 200 avions et près de 2500 véhicules blindés pendant le conflit. Il a ajouté que, je cite, « des milliers de soldats russes seront tués et des milliers blessés dans les semaines à venir ». Reportage de Nicolas Feldman pour RFI.
Oui, avec la reprise du village de Roskalozova, cela se trouve au nord-est de l'Ukraine, près de la ville de Kharkiv. Le ministère de la Défense ukrainien rapporte que cette localité a été libérée après d'intenses combats. Plus de 600 habitants ont pu être évacués. Mais pour le reste, les succès côté ukrainien restent maigres. L'armée, moins nombreuse, moins bien équipée aussi que les forces russes, doit céder du terrain sous le feu de l'artillerie adverse. C'est le cas notamment dans la région de Donetsk, explique le général Olivier Kempf. Il est chercheur et directeur du cabinet stratégique La Vigie.
C'est du clignotage. C'est lent. Et pourquoi c'est lent? Parce qu'en face, on a des Ukrainiens qui ont d'abord mis le gros de leurs forces face au Donbass et qui, d'autre part, ont mis 8 ans à s'enterrer, se préparer, organiser des positions défensives successives. Et donc, il s'agit pour les Russes, finalement, conquérir ces réseaux successifs de défensives.
Dans ce qui ressemble à une guerre d'usure, les combats se concentrent désormais sur 3 fronts. D'abord, dans le nord du Donbass, entre les villes d'Izium et de Severodonetsk, dans le sud du pays, ensuite non loin de la ville de Mariupol et enfin autour de Kherson, ce qui n'empêche pas les Russes de frapper encore plus à l'ouest. Ce samedi, l'aéroport d'Odessa a été touché par un missile, rendant la piste d'atterrissage impraticable.
La France va renforcer son aide humanitaire et aussi l'aide militaire à l'Ukraine. C'est ce qu'a annoncé le président français après un échange téléphonique avec son homologue ukrainien, Lucas Désiré, pour RFI.
Emmanuel Macron insiste sur sa volonté d'œuvrer activement à rétablir la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Ce sont ses mots alors que la France fait partie des pays qui se mobilisent déjà sur le plan militaire. Paris envoie à Kiev des milliers d'obus, mais aussi, et on le sait depuis la semaine dernière, de l'artillerie lourde. La France livre ainsi à l'Ukraine des missiles anti-chars Milan et des canons d'artillerie César, selon l'Élysée. 40 soldats ukrainiens doivent rejoindre l'Hexagone dans les prochaines semaines pour se former à l'utilisation de ces canons. En plus de ces livraisons, Emmanuel Macron veut aussi renforcer l'aide humanitaire pour les Ukrainiens. Au total, Paris rapporte avoir livré plus de 615 tonnes d'aide depuis le début de la guerre. L'Élysée évoque notamment du matériel médical, des denrées alimentaires ou encore des groupes électrogènes pour les hôpitaux et des véhicules d'urgence.
L'envoyé spécial des Nations Unies du HCR, le Haut Commissariat pour les réfugiés, l'actrice américaine Angelina Jolie, s'est rendue hier samedi dans une gare de la ville ukrainienne de Lviv. Alors, lors d'une visite surprise dans le pays, Angelina Jolie a rencontré et parlé aux victimes du traumatisme de cette guerre et du soutien reçu, en particulier pour les enfants.
I know how trauma affects children, and so it's. But I know that just having somebody show how much they matter, how much their voices matter, I know how healing that is for them. So.
Le ministre moldave des Affaires étrangères, Nicu Popescu, a déclaré que l'avenir de l'Europe dépendait de la fin de la guerre en Ukraine. La Moldavie a suivi de près le conflit en Ukraine, en particulier après qu'un haut responsable militaire russe a déclaré que les forces russes visaient à prendre le contrôle total du sud de l'Ukraine, qui s'étend sur les frontières nord et est de la Moldavie. Lorsqu'on lui a demandé si la Moldavie était prête à demander des armes à d'autres pays si le conflit se répandait dans son pays, Nicu Popescu a déclaré que le pays n'était pas en mesure de préjuger de l'évolution des choses, mais que des préparatifs étaient en cours pour toutes les éventualités possibles.
Well, I think the future of the entire continent rests on the capacity of Ukraine to maintain its political system, its country, its resilience, and in this sense, the fate and the future of every country in this part of the world, of entire Europe, depends on how this war ends, on where it ends and when it ends.
Un député du Parti conservateur au pouvoir en Grande-Bretagne a annoncé qu'il démissionnerait après avoir reconnu avoir regardé de la pornographie sur son téléphone portable dans la Chambre des communes. Neil Parish, qui représente un siège du sud-ouest de l'Angleterre, a déclaré qu'il se retirait après ce qu'il a appelé un moment de folie totale. L'homme de 65 ans, qui est député depuis 2010, avait déjà été suspendu du Parti conservateur et fait face à au moins deux enquêtes parlementaires. Cette identification publique a mis fin à des jours de spéculation après qu'il est apparu qu'au moins deux autres politiciens s'étaient plaints qu'un député avait été vu en train de regarder de la pornographie dans la Chambre des communes au milieu d'accusations misogynes au Parlement britannique. Des défilés du 1er mai prévus un peu partout en France ce dimanche. Reportage de Mayol de Chavron pour RFI.
Une semaine après sa réélection, Emmanuel Macron confronté à un premier test social dans la rue. La CGT, une sa solidaire FSU et plusieurs syndicats étudiants appellent à manifester pour la journée internationale des droits des travailleurs ce 1er mai. Si plusieurs syndicats se sont positionnés contre Marine Le Pen entre les deux tours, ils ne soutiennent pas pour autant la politique d'Emmanuel Macron. Catherine Perret, secrétaire confédérale de la CGT.
C'est une journée importante, évidemment, au lendemain des élections, puisqu'il y a des projets de réforme annoncés par le président de la République, et en priorité, évidemment, la question de la retraite et du passage à 65 ans. Et donc, la CGT, avec les autres organisations, hein, nous sommes assez nombreux, nous allons dire que nous sommes totalement tous ensemble opposés à un décalage de l'âge de la retraite à 65 ans. Mais il y a aussi d'autres sujets, hein, la question des salaires, du pouvoir d'achat, notamment lié à l'inflation. Il y a beaucoup de mobilisation à ce sujet, et on l'a vu y compris à travers les votes de nos concitoyens. Donc le deuxième sujet est avec la retraite, les salaires. Et puis le 1er mai, c'est une journée internationale, hein, pour les droits des travailleurs du monde entier. Et évidemment, dans ce contexte que l'on vit en Europe depuis deux mois, il y a aussi la question de la paix qui va être mise au centre des mobilisations partout en France, des concitoyens qui sont très inquiets de voir ce qui se passe en Ukraine.
Catherine Perret, secrétaire confédérale de la CGT au micro de Pauline Glaise. Et des défilés sont donc prévus un petit peu partout en France. À Paris, il partira de la place de la République, direction Nation. 20 000 personnes sont attendues.
L'Afghanistan marque sous haute tension la fin du mois de Ramadan. Les attentats se multiplient. Deux bombes ont frappé deux mosquées de la capitale vendredi. Reportage de Sonia Ghezali pour RFI.
Aussitôt la date de l'Aïd annoncée par les responsables talibans, des tirs ont commencé à déchirer la nuit dans Kaboul. Un internaute indigné écrit sur Twitter « Il y a des coups de feu partout, mes enfants sont terrifiés, ils sont en train de pleurer ». Le porte-parole de la police de Kaboul s'est fendu d'un message sur les réseaux sociaux vers 23h30 heure locale pour condamner ces tirs de joie, mais ils ont continué bien que plus sporadiques jusque tard dans la nuit. L'Afghanistan ne célébrera donc pas l'Aïd el-Fitr comme l'Arabie Saoudite et plusieurs autres pays musulmans lundi. L'émirat islamique, tel qu'il se surnomme, montre son autorité religieuse et politique, lui qui n'a toujours pas eu la reconnaissance de la communauté internationale. 8 mois après leur prise du pouvoir, les talibans sont toujours en quête de cette reconnaissance. Les sanctions internationales qui pèsent sur le pays ont porté un coup majeur à l'économie de l'Afghanistan. La crise humanitaire qui y sévit est l'une des pires au monde. Le pays n'en a par ailleurs pas fini avec la violence. Kaboul était sans électricité ce samedi après que des pylônes électriques ont été ciblés par des bombes dans la province de Parwan. Les attaques se multiplient contre les forces de sécurité talibanes et contre la minorité chiite Hazara. Le groupe État islamique a revendiqué l'attaque contre un minibus dans l'ouest de Kaboul ce samedi. Le dernier bilan fait état d'au moins 5 victimes selon les médias locaux. Vendredi, au moins 10 personnes ont été tuées dans une explosion qui a frappé une mosquée de Kaboul après la prière.
En Australie à nouveau, plus d'un Australien sur 5 souffre d'hypertension non contrôlée et beaucoup ne s'en rendent même pas compte, avec l'hypertension entraînant souvent des accidents vasculaires cérébraux potentiellement mortels. La nation est invitée à entreprendre des contrôles plus réguliers. L'hypertension artérielle ne présente aucun symptôme immédiat. Elle n'est souvent pas diagnostiquée, prévient la Stroke Foundation. Mais avec le temps, cela peut exercer une pression supplémentaire sur les parois des vaisseaux, les obligeant à se rétrécir ou à se décomposer, ce qui peut éventuellement entraîner un accident vasculaire cérébral. La vérification régulière de la tension artérielle pourrait simplement sauver des vies, car l'hypertension est le plus grand facteur de risque modifiable, déclare Sharon McGowan de la Fondation. 80% de tous les AVC peuvent être évités, selon elle. On passe à la météo pour ce dimanche en Australie. À Perth, il fera 25 degrés. Adélaïde, 21. Melbourne, 20. Hobart, 19. Canberra, 18. Sydney, 22. Brisbane, 24. Cairns, 29. Alice Springs, 24. Et à Darwin, maximal de 35 degrés. Un rappel des grands titres de ce 1er mai, la Nouvelle-Galles du Sud et le Victoria ont enregistré 12 autres décès combinés liés au Covid-19 et près de 17 000 nouveaux cas du virus. Les élections fédérales en Australie et les travaillistes lancent leur campagne officielle en Australie-Occidentale ce dimanche à Perth. C'est la fin du journal et merci de rester avec nous.
Programme en français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/SBS French.
Journal des sports de ce dimanche avec tout d'abord le foot, la Ligue des Championnes, demi-finale retour avec les Parisiennes qui s'inclinent face aux Lyonnaises 2-1. Frédéric Souteau pour Radio France Internationale.
Oui, les Lyonnaises l'avaient emporté dimanche dernier devant leur public au Groupama Stadium, 3-2. Elles ont fait de même ce soir au Parc des Princes, une victoire très convaincante, hein, pleine d'autorité avec Ada Egerberg, la Norvégienne, qui a ouvert le score dès la 14e minute, hein, sur un centre de Selma Bacha. Ada Egerberg, ballon d'or 2018, qui ensuite a été blessée, grave blessure au genou, joue, au mollet, ça a duré des mois et des mois, mais là, depuis quelques mois, elle revient au premier plan, au meilleur des moments, et derrière, Lyon a bien failli même doubler la mise en première période. Les Parisiennes, tout de même, bon, elles ont égalisé à la 62e par Marie-Antoinette Katoto, mais cela n'a pas suffi, et c'est Wendy Renard, la capitaine lyonnaise, qui a mis tout le monde d'accord, là encore sur un centre de Selma Bacha, à la 83e minute, elle marque une fois de plus de la tête Wendy Renard, 2-1 pour Lyon. Sur l'ensemble des deux matchs, c'est largement mérité. L'expérience lyonnaise a primé ce soir, les Lyonnaises en finale pour la 10e fois, hein, 10e finale de Ligue des Champions.
Un petit mot du public, Frédéric, vous êtes au Parc des Princes, et à côté de vous, il y avait 40 000 spectateurs. Une belle ambiance, mais donc ça n'a pas suffi au Paris Saint-Germain.
Oui, c'est un record hein, pour un match de club en France. 43 255 spectateurs exactement. Beaucoup de jeunes filles, des garçons, des ados qui étaient là, en est venu en famille également. Et c'est assez marrant, Tom. C'est pas tout à fait la même ambiance que pour les garçons. Et finalement, il y avait même plus d'ambiance que quand les Neymar, Messi et Mbappé jouent ici habituellement. Vous savez, il y a un peu la grève des supporters. On n'est pas content. Le grand PSG éliminé par le Real de Madrid en Ligue des Champions chez les garçons. Et bien là, ils sont venus, les ultras étaient là, ils ont soutenu de bout en bout cette équipe du PSG. Cela n'a pas suffi, mais en tout cas, on en redemande des soirées et des ambiances comme celle-là.
Les Allemands de Wolfsburg ont gagné contre les Espagnols du FC Barcelone 2-0. La Ligue 1 en France, il y avait deux matchs hier avec la victoire de Rennes contre Saint-Étienne, 2-0. Lens et Nantes ont fait match nul, 2-2. En Angleterre, 35e journée, quelques résultats. Les deux leaders, Manchester City d'abord, premier, a battu Leeds, 4-0. Liverpool, deuxième au classement, s'est imposé contre Newcastle, 1-0. En Espagne, le sacre du Real de Madrid pour la 35e fois après sa victoire contre l'Espagnol Barcelone, 4-0 hier. Pierre Chaperon pour RFI en compagnie de Tom Rossi.
Oui, avec un doublé de Rodrigo, le premier 1-2 dans la surface avec Marcelo. La défense de l'Espagnol très facile cet après-midi à pénétrer. Tir croisé, le deuxième, il profite du bon pressing de Mariano devant la surface de réparation. Une série de dribbles et buts. Asensio d'un tir croisé sur une bonne passe de Camavinga inscrit le troisième but. Et puis le classique, c'est-à-dire un but de Benzema du plat du pied sur un centre en retrait de Vinicius. 42e but en 42 matchs pour le Français, le président du Real, Florentino Pérez, dit ce soir que le Ballon d'Or ne doit pas lui échapper. Bref, la campagne du Real pour que le Français gagne ce trophée individuel est officiellement lancée. Le Real qui a fêté le titre avec ses supporters dans le stade, et puis, comme le veut la tradition, place de Cibeles, entre 20h et 21h30, très rapide donc. Là, ils dînent ensemble en ce moment dans l'intimité du centre sportif de Valdebebas, seule ombre au tableau que la presse espagnole a bien fait remarquer, bien entendu, l'absence de Gareth Bale. Le contrat du Gallois se termine en juin, mais il semble déjà parti. Le Real, sans être génial, eh bien, a eu une sorte de constance, gagner des titres importants, ne pas se morfondre après une défaite. Et puis, la concurrence n'était pas au rendez-vous. L'Atlético, le Barça, ils ont piétiné cette saison et Séville n'avait peut-être pas l'effectif qu'il fallait. Ça n'enlève rien à ce titre du Real. Écoutez le capitaine de cette équipe, le plus ancien du club et qui vient de remporter son 24e titre avec le Real. Un record. Le défenseur Marcelo, qui va quitter le club en fin de saison, il donne les recettes du succès madrilène.
Travail, joie, sacrifice et plein de choses. Je crois que tous ces facteurs nous ont permis de l'emporter. Vraiment, c'est une joie immense. Nous avons réussi à remporter la Liga, l'emporter le plus rapidement possible. C'est le travail de toute l'équipe. Et puis, il faut continuer à ajouter des titres. Aujourd'hui, on va célébrer ça, mais nous savons que nous avons un match important. Je crois que tout va bien se passer si on fait ça et qu'on continue d'être motivé pour la prochaine rencontre.
En Italie, à noter la victoire de Naples contre Sassuolo, 6-1. Et puis le tirage au sort de la CAN féminine, et on parle toujours de foot, en compagnie d'Andréane Mellard et Thomas de Saint-Léger pour RFI.
Le tirage au sort de la CAN féminine a eu lieu à Rabat, au Maroc.
Le Maroc, pays hôte hein, du tournoi en juillet prochain, placé dans le groupe A avec l'Ouganda, le Sénégal et le Burkina Faso. Maroc-Burkina, ce sera d'ailleurs l'affiche du match d'ouverture. Les Burkinabés qui, pour leur première à la CAN, évitent donc les grosses écuries, même si l'attaquante Juliette Nana se méfie de tout le monde.
C'est acceptable, mais pas facile. Nous sommes éparpillés des plus grandes équipes pour le début, mais moi, je trouve pas de satisfaction en tant que telle. Parce que pour moi, dans cette dernière ligne, il n'y a pas de petite équipe. L'adversaire que je redoute le plus, c'est le Sénégal. Parce que pour moi, le Sénégal s'est qualifié de belle manière avec une préparation plus avancée. Nous, notre force, c'est la solidarité, la détermination, la combativité, la rage de vaincre. Quoi. On ne relâche pas jusqu'à la fin du match. Mes ambitions dans cette compétition, c'est aller de l'avant et surtout se qualifier pour le second tour. Quoi.
Juliette Nana, qui est beaucoup plus dynamique sur les terrains. Juliette Nana avec Hugo Moissonnier dans le groupe B. C'est corsé pour le Togo qui aura fort à faire avec les Lions indomptables du Cameroun, régulièrement sur le podium. Les Zambiennes présentes aux derniers Jeux Olympiques et les Tunisiennes relevaient aussi la poule C. On y retrouve les tenantes du titre nigériane avec les Sud-Africaines finalistes sortantes, plus le Burundi et le Botswana.
Rugby tournoi des Six Nations des Dames avec la victoire des Anglaises contre les Françaises 24-12 hier. Rugby toujours, le joueur des Wallabies, Lachlan Swinton, déclare qu'il pense que l'équipe est bien préparée pour affronter l'Angleterre dans une confrontation en trois tests prévue en juillet prochain. Le calendrier a été publié, le Sydney Cricket Ground devant accueillir le troisième match potentiellement décisif le 16 juillet prochain. Ce sera le premier test dans ce stade depuis 1986. On écoute Lachlan Swinton qui dit que l'équipe est prête à changer les choses.
I just feel like we've got that campaign last year and we're building nicely. We've had a similar sort of squad with Dave Rennie and that coaching staff in for a while now. He's been cementing the same sort of patterns and sort of plays. They're a world-class team, and throughout the whole squad, they've got some good depth. But matching up against our squad, I'm pretty confident that we can put a good performance in.
Tennis, un mot de tennis avec quelques nouvelles concernant l'ancien joueur, l'Allemand Boris Becker. Eric Mamruth pour RFI.
Et oui, celui que l'on surnommait Boom Boom a été condamné aujourd'hui à 2 ans et demi de prison par la justice britannique pour des infractions financières liées à sa faillite personnelle. En banqueroute depuis 2017, Boris Becker a multiplié les fraudes et dissimulations de biens à hauteur de 3 millions d'euros pour éviter de payer ses dettes estimées à 60 millions d'euros. Il devrait purger la moitié de sa peine, soit 15 mois derrière les barreaux. Une vraie descente aux enfers pour l'ancien numéro 1 mondial en 1991, vainqueur de 6 titres du Grand Chelem et de 49 autres tournois.
Voilà pour le journal des sports de ce dimanche. Le 30 avril 1975, c'était la chute de Saigon et la fin de la guerre du Vietnam. Je vous propose un extrait d'une interview réalisée en 2021 avec Barry Long, un vétéran de la guerre du Vietnam et membre du Australian Army Training Team Vietnam, l'équipe de formation de l'armée australienne au Vietnam entre 1962 et 1972. Dans les missions de combat qu'effectuaient les Australiens, il y avait un soldat de l'armée vietnamienne un homme connu seulement sous le nom de Harry. Son vrai nom était le Major Tran Nhoc Vu. Il faisait partie de l'unité Black Panther au Vietnam, connu sous le nom Hook Bao. Barry Long et Harry, le Major Tran Nhoc Vu, se sont retrouvés après la guerre pour la première fois en 2015. Leur histoire, parmi d'autres, a été le sujet d'un documentaire sur la télévision SBS. Voici un extrait de cette interview de Barry Long.
Welcome on the program.
Thank you, John.
You were there in Vietnam.
I was with the Australian Army training team, Vietnam, which was a group of advisors. Mm-hmm. We went up 100 strong at a time, and overall there was only 1,008 involved in the whole period. The period was from the 1962 mm-hmm. to 1972, which meant we were first in and last out. But my period of service was between 1970 and 71.
Let's talk about the AATTV. And so what I can gather is the soldiers were deployed in pairs with members of the South Vietnamese Army. And you met a very good friend through that. His name is Harry. He's Major Tran Nhoc Vu. Tell us about that partnership with him.
I arrived in Vietnam on my birthday in September. And after two or three weeks of receiving information and so forth as to what we were going to do and where we were going to do it, I moved up and met Harry. He was the commander of the 2nd Battalion, 2nd Regiment, 1st Arvin Division in a place called Dong Ha, the northernmost base.
And what was your role in the unit?
Actually, we didn't go up as pairs sort of thing. It was very varied. The training team went from the south, right dead south, right up to the border. And we worked on the border itself, the river. And my role was as regarded as a heavy weapons advisor. Other American that was with us was a light weapons advisor. And we had a major who was the advisor to the commander, which was Harry. So they usually stayed on base, and we took it in turns and going out into the field, mm-hmm. swapping 10 days at a time, patrolling. That's how our operation went. Other operations were could be individuals with more experience and more rank, and they were actual commanding units themselves and going out in the field. Then there was groups of four. It was so diverse, it was all so different, dependent on your situation. So in our case, it was three, two Americans and myself. And in our area, there was only 19 Australians, all up. So we didn't get to see each other very often. It was only on occasions. So I got a bit lonely out there, and lonely for American twang, American talk. Oh, wrong, Australian. Sorry, Australian talk. But Harry was a very jovial man. He was strict, and they all knew he was strict. Actually, he was the hero of a unit called the Hak Bao, or Black Panther unit. And during the Battle of Wei in 1968, he commanded the Hak Bao, and they virtually routed a regiment of North Vietnamese, mainly because they were born in the area, they lived there, they knew the back streets, they knew everything. So they could sneak up behind the groups and put them into disarray. So he got the American Silver Star during that period, and then he was a captain then. So then he was promoted major and put in charge of the 2nd Battalion, where I went.
Harry, I'll call him Harry.
Yeah.
And I believe in 2017, you managed to get reunited with him in Virginia, in the United States?
There was a final large battle which included the whole of the Army of Republic of Vietnam, mm-hmm. and they were going to go into Laos, take a place by the name of Chi Pong, and then move back and close down the Ho Chi Minh Trail. Now, they went in and it was a breeze. They just almost walked all the way to Chi Pong with mm-hmm. no problems. They radioed back and said, oh, there's no one here, this is a breeze. But then on the way back, they closed the trap, the NVA, and they threw everything at them. It was a disaster. Harry and his group were on a base called Keijo, which was the gateway to Laos. And that's where we usually operated from. He was supposed to stay there, but when unit after unit was being knocked off, they called him up and said, you've got to come in too. So they got almost slaughtered themselves. He got badly wounded. He lost three fingers and he smashed his nose. He was in bad shape. And being the leader that he was, he ordered his men out. He said, I can't make it. You go. And they wanted to carry him out. And he said, no, go. I order you. So they all left and left him there. And he was captured. And then they realised his rank. He was Lieutenant Colonel at that stage. He'd been upgraded. And he was virtually dragged all the way back to Hanoi. Night after night, no medical treatment. His wounds were festering and terrible situation. And he spent 13 years in the prison up there. At this time, we didn't know, no information coming back, except from the soldiers, to say he was badly wounded. We didn't know what had happened to him. So quite a few of us were all searching and making inquiries and eventually found out that he was in prison up there as a prisoner of war. And then when he got let out, he was allowed to go to Saigon where his family was, but he was sort of under house arrest. He could go out in the streets and beg, but he couldn't work. He was humiliated all the way. That's because he wouldn't give in to him. He wouldn't sign over. And Major Wiseman, the Marine Major who was in charge of us at the time, the senior advisor, he kept inquiring as well and finally found he was in Saigon. He then started secretly sending him some money and then organised that he would come to America and give a speech on how good the NVA were, and he finally relented, which was a lie. So they got him out of there into America and his family, and he was free. But then he took on three jobs to pay back all the money that was spent on him, and got his kids through university. He's quite a guy.
So you've been keeping in touch with him?
Yeah. We only on 2015 that I actually found out that he was still alive. And the company who were doing the documentary found this out, got in touch with him and got him out to Australia. And we weren't allowed to meet. It had to be very quiet and secretive until we met at the Grove. So that's that picture there that shows us actually meeting.
There was an SBS documentary made about Vietnam, the war that made Australia.
That's the one we're talking about. That's where that started, yeah.
Mr. Long, is there a message that you'd like to convey to the people listening, to the youngsters today, maybe about remembering Anzac Day every year?
Yes, it seems to be slipping away a little. It used to be, although the crowds are still there, but the concern is the schools. They're not looking after the schools in educating them with a bit of history each time. It should be kept going, kept alive. They shouldn't have to grow up to learn about it. I saw in the paper recently where a school was going to do a parade on Anzac Day, and it was going to have what's known as a catafalque party. They had old 303 rifles, which were made safe. They were given to them for the day. And the idea was just to put the arms in reverse and respect at the memorial. A couple of parents, which I would probably say were one or two, complained. So with their complaint, the whole thing was stopped. Now, the kids were very disappointed. They'd been told so much about it and how to do it and what to do. And I don't think that's right. I think if the majority says go, go, not the minority. That's how it works now, unfortunately. Also, by the way, my great-grandson, who was 15, and my great-granddaughter, who's just turned 13, are both in the cadets in South Australia.
Mr. Long, thank you very much for coming on to SBS French, and all the best.
Thank you.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Et enfin, l'émission a rappel des grands titres. La Nouvelle-Galles du Sud et le Victoria ont enregistré 12 autres décès combinés liés au Covid-19 et près de 17 000 nouveaux cas de virus ce dimanche. Les élections fédérales en Australie, les travaillistes lancent leur campagne officielle en Australie-Occidentale en ce moment même, ce dimanche donc à Perth. Et voilà, nous arrivons à la fin de cette émission. Merci de votre compagnie. Prochain rendez-vous, c'est mardi à partir de 13h. Je vous laisse en compagnie de Célia Kameni et Bigre, le temps de l'amour. Belle journée, à bientôt.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.